Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France. Pergame, à l'apogée de l'Empire romain, tel est le thème de la dernière leçon consacrée à cette importante cité d'Asie mineure par le professeur Helmut Müller à l'invitation de Denis Knopfler, titulaire de la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Je rappelle qu'après la victoire de Rome, la ville de Pergame fut déclarée libre, conformément au testament d'Attale III, et échappa ainsi au contrôle du gouverneur de la province d'Asie, créée en 129 avant Jésus-Christ. La nouvelle élite de la cité de Pergame, explique le professeur Müller, concentra son énergie sur la formation de citoyens exemplaires, comme l'attestent de nombreux décrets, riches en informations sur la vie au gymnase. Pourtant, la majorité de la population se rallia en 88 avant Jésus-Christ à Mithridate VI, roi du Pont, et prit part au massacre de masse dont furent victimes les Romains installés dans la ville. Vaincue par Sylla, la ville perdit son statut privilégié et fut alors assujettie, comme la plupart des autres cités d'Asie, au paiement d'impôts ruineux. Quelques évergettes, explique Helmut Müller, tel le fameux Diodoros Pasparos, parvinrent néanmoins, au terme de coûteuses ambassades auprès des autorités romaines, à obtenir des allégements de charges et à maintenir le bon fonctionnement du gymnase. Seul Mithridates, fils de Ménotodos, qui jouissait de la confiance de César, réussit à recouvrer l'immunité. Écoutez.
La première guerre mithridatique marquait pour Pergame une césure décisive. La cité perdant son statut privilégié de cité libre au sein de la province d'Asie, elle se trouvait soumise, comme tant d'autres communautés de la province, à participer au paiement de l'indemnité énorme imposée par Sylla autant qu'aux exactions des publicains et des gouverneurs. La figure emblématique de cette époque pour nous, historiens et épigraphistes, est, d'après la datation des documents le concernant par Christopher Jones à ces années, certes Diodoros Pasparos. Et cela à cause du nombre des documents le concernant. Ces documents étant bien connus de la plupart de l'audience, je ne les effleurerai ici, probablement à l'encontre de vos expectations, que très brièvement. Il était honoré par ses concitoyens, surtout à cause de la gymnasiarchie pendant les 29e Nikephoria tenue à l'année 69 ou éventuellement un peu plus tard. Gymnasiarchie pendant laquelle il se distinguait par ses largesses lors de l'organisation de concours de toutes sortes pour la jeunesse et les autres habitués du gymnase, autant que par le renouveau du culte des rois attalides, mais surtout par ses œuvres importantes de restauration et de construction de bâtiments nouveaux pour embellir le complexe. Et enfin, pour son dévouement pendant une ambassade durant plusieurs années bien antérieures. C'est à cette occasion qu'il s'efforçait d'atteindre des Romains des allégements, pas seulement pour sa patrie, mais pour la province entière, à savoir une elaphrotokia, une baisse de charge de remboursement des intérêts, la fin de l'androblepsia, probablement des arrestations arbitraires, un soulagement de l'accablement provoqué par l'hébergement des troupes, l'abrogation des contrats sur graphae conclus sous la menace, et en particulier la restitution des biens des nombreuses exécutées par Mithridate. Le succès de Diodoros, cependant, reste flou, plutôt flou à cause de l'état du texte du décret mentionnant ses exploits au cours de son ambassade à Rome. Il faut se mettre en garde, cependant, de surestimer l'importance des allégements obtenus par Diodoros. C'est la masse de la documentation préservée, et elle seule, qui nous fait voir en lui le politicien le plus important et le plus couronné de succès de son temps, nonobstant ses mérites à ne pas mettre en doute en tant que rénovateur du gymnase de Pergame agonisant. Et, d'une façon générale, il ne faut jamais perdre de vue que l'image que nous pouvons esquisser tant bien que mal de l'histoire de Pergame à cette époque est entièrement due aux hasards des excavations, c'est-à-dire qu'il est centré exclusivement sur le gymnase, et le gymnase seul. Nous n'avons pas, pour ne prendre qu'un exemple, qu'un seul des décrets qui était exposé dans l'enceinte du Pythion, sanctuaire inconnu de nous à ce jour. Concrétisons un peu. C'est vrai que nous possédons deux bases de statues provenant du gymnase élevées à un autre politicien éminent, nommé Mithridates Menodotou, mais pas le moindre fragment d'un seul décret. Regardons donc ce personnage d'un peu plus près. Il était le fils, ou au moins le fils officiel, nous le verrons dans un instant pourquoi, d'un citoyen de Pergame du nom de Menodotos, qui a dû compter déjà parmi les milieux les plus en vue de la société pergaminienne de son temps, vu le fait qu'il était en mesure d'épouser une princesse galate de la tribu de Trocme nommée Adobogiona, qui recevait plus tard, quand elle avait épousé en seconde noce un autre prince galate, l'honneur insigne de se voir décerné par le peuple de Pergame reconnaissant une statue placée dans le temple Thera tout près de la gamma de la déesse. Le père naturel de Mithridates, au contraire, serait, d'après les dires de ses proches parents, rapportés par Strabon, pas le pergaménien Menodotos, mais le roi du Pont du même nom. Avis partagé par nul autre que Jules César, comme nous le verrons dans un instant. De toute façon, le jeune homme a passé sa jeunesse ensemble avec sa mère à la cour du roi dont il portait le nom, où il était éduqué et enseigné en l'art militaire spécialement. De retour à Pergame, il entamait une carrière fulgurante, invisible pour nous à partir des inscriptions, mais à reconstruire, au moins dans ses grandes lignes, à partir de la tradition littéraire. D'abord Cicéron, qui nous le montre en 59 avant Jésus-Christ à Rome, à l'occasion du procès entamé contre Lucius Valerius Flaccus, préteur en 63 lors du consulat de son avocat et gouverneur de la province d'Asie en 62. Et Cicéron caractérisant le Mithridates de Columen Accusationis, le pilier principal de toute l'accusation. Mais, malheureusement par nous, c'était à Hortensius de réfuter le témoignage de Mithridates, Cicéron se taisant en conséquence, à une exception près. Comme d'habitude dans ce discours, l'avocat Cicéron tente de ridiculiser les témoins autant que de les diaboliser. Dans ce cas, en esquissant l'image d'un Mithridates déambulant à Rome, portant une cuirasse de peur d'un attentat, et de nier simplement les témoignages rapportés, ou, dernière possibilité, de dénigrer la façon dans laquelle ils étaient obtenus. Ceci vaut d'une manière générale aussi pour les décrets des cités d'Asie apportés par les témoins interrogés, dans notre cas, un proposé par Mithridates de Pergame. La rhétorique malveillante de Cicéron, qui peint de ce Mithridates l'image d'un démagogue irresponsable manipulant à sa guise une populace séditieuse par des bribes, nous montre, malgré lui, que le comportement habituel d'un des grands évergètes, comme nous en connaissons tant pour la basse époque hellénistique, des banquets et des dons à la population. Et il nous montre également la possession éminente qu'occupait Mithridates dans la cité aux alentours de l'année 60. Le procès contre Flaccus, nous rappelons, se plaçait en 59, année où Cicéron présente notre homme, le maître incontesté de Pergame. D'autre part, les 29e Nikephoria, à l'occasion desquels priait Diodorus Paspáros et à l'occasion desquels il lançait ses évergiles ses plus importantes, sont à dater de 69 ou même quelques années plus tard. Il semble donc bien qu'il y avait à Pergame un changement dans la position de l'homme le plus influent de Diodorus à Mithridates autour du milieu des années 60. Et il se pourrait même que la description malveillante de ce dernier par Cicéron porte, contre son gré, un grain de vérité historique. Rappelons-nous encore, nous possédons aucun décret pour Mithridates provenant du gymnase, seulement deux bases de statues datant d'une époque postérieure, mais tant pour Diodorus. Ce gymnase, cette scène d'une aristocratie qu'étaient les Néoï et les notables blanchis sous la harnais de Presbyteroi, n'était-il peut-être pas le turf exclusif de Diodorus et que Mithridates, par contre, n'était-il pas l'homme du gymnase, n'ayant pas participé à l'école première de Paides ni à l'Éphébie, éduqué qu'il était à la cour pontique? Consacrait-il ses bénéfices réellement de préférence aux classes de la population moins avantagées, si seulement l'Horatio de Hortensius était préservé? 11 ans plus tard, en 48, nous rencontrerons notre homme de nouveau, recrutant, simple citoyen de Pergame qu'il était, une armée pour, dans le but de délivrer César assiégé à Alexandrie, l'amenant par le Levant et la Palestine en direction d'Égypte, gagnant en cours de route le soutien militaire d'Antipatros, père d'Hérode le Grand, aussi que celui du Nabatéen Malchos. Dans une action combinée terrestre et navale, il réussit à prendre la forteresse de Pelusium, porte d'Égypte. Memphis capitulait de son plein gré. Mithridates battit les troupes de Ptolémée XIII en rase campagne, à la suite de quoi César réussit à s'échapper d'Alexandrie et à s'unir à Mithridates. La bataille décisive se déroulait près du Nil. Ptolémée mort, l'avenir était grand ouvert pour Cléopâtre. En remerciant pour cette assistance décisive à un moment de sa carrière extrêmement difficile, César, après la victoire sur Pharnace II en 47, récompensait Mithridates en tant que dernier rejeton de la dynastie galate des Trocmes, souvenons-en de sa mère Adbogliona, avec la tétrarchie de la partie de la Galatie appartenant à cette tribu et, en plus, avec la royauté du Bosphore. Choix surprenant, mais compréhensible, à partir du moment qu'on se rappelle la descendance présumée de Mithridates du rat du même nom. Cadeau empoisonné parce qu'il fallait d'abord conquérir ce nouveau royaume, une tâche à laquelle Mithridates, pour une fois, ne se montrait pas à la hauteur. Surpris peut-être par une résistance imprévue, il fut battu par Azanthros, qui avait auparavant fait disparaître Pharnace, et y trouva vraisemblablement la mort. Les origines de cette surprenante proximité avec César et la confiance étonnante que celui-ci posait en lui à un moment décisif doivent dater, au moins à mon avis, déjà de l'époque du procès contre Flaccus, quand Mithridates a dû passer des mois et des mois à Rome en compagnie de l'accusateur Laelius et ses associés politiques influents, César étant bel et bien un des leurs et même des plus importants. C'était donc un homme hors du commun, homo doctus et sapiens, comme le dit Cicéron, même si ce n'est qu'avec une ironie sarcastique, personne du premier plan à l'échelle internationale mondiale, ami et confident du maître du monde du moment, en comparaison avec lequel Diodorus Paspáros ne peut faire que bien piètre figure dans son gymnase pergaménien. Mais c'est pour Diodorus que nous possédons des décrets qu'on dit que Mithridates, je vous l'avais dit, ce ne sont que des deux bases de statut. Laissons donc pour un moment s'envoler notre imagination d'historien et épigraphiste et imaginons la antésis, la réception solennelle de Mithridates par la population de Pergame lors de son retour d'Égypte et le ou les décrets qui s'en suivirent, ou la réaction du peuple pergaménien à l'occasion de la proclamation de leur concitoyen Tétrarque, Tétrochme et roi du Bosphore. Mais abandonnons ces rêves aussitôt et retournons à ce que nous avons, c'est-à-dire ces bases de statut du gymnase au texte identique. Quel était donc le motif pour l'érection de ces statuts? En un mot, le cadeau le plus important qu'une cité puisse imaginer, la liberté. À cause de cela, il est honoré en tant que troisième fondateur de la ville, après le fondateur mythique qui était Pergamos, et le fondateur de la Pergame Talit Philetairos. L'application du don, de la part de César, bien entendu, était la tâche du proconsul Servilius Isauricus, les deux, César et Servilius, étant honorés à cause de cela eux aussi, et heureusement avec des mots moins elliptiques. Un fragment d'une inscription trouvée à Pergame. Son contexte archéologique, encore une fois, nous permet de compléter l'esquisse de la carrière de Mithridates au moins dans un aspect particulier. L'écriture de l'inscription, composée de deux fragments, dont le premier, tout petit, placé au début, semble perdu, se dégrade visiblement à partir de la ligne 21 et devient sensiblement plus petite qu'à partir de la ligne 26, cette deuxième partie se présentant donc comme un rajout postérieur. Passons donc au contenu. Des personnes ont été ajoutées à un registre couvrant plusieurs années par un fonctionnaire, en l'espèce un secrétaire à Kramatoïs. Sont enregistrées ainsi des sommes d'argent, deux fois d'un montant de 300, une fois de 500 drachmes, pour servir de capital à des fondations dont les revenus sont destinés au financement de l'alaïma, l'huile d'onction, à l'occasion de la fête du jour d'anniversaire des donateurs, ces fêtes étant déjà votées auparavant par la même instance que receveux, mais ces donations. Cette mise à disposition d'huile pour l'onction met en évidence que ces fêtes sont à placer dans un contexte gymnasiarchique, ce qui rappelle les associations gymnasiarchiques des presbytéros récemment mises en évidence par Pierre Freudy, à la différence importante près qu'il s'agit dans notre registre, au moins dans son parti conservé, exclusivement des donateurs citoyens romains. L'un d'eux, Publius Sextilius, fils de Publius, de la tribu Falerna, apparaît au moins deux fois. L'autre, Cneus Furius Heliodorus, manquant de filiation et portant un cognomen grec, semble être un affranchi d'un romain de souche. Les fêtes d'anniversaire de Publius Sextilius se passent au mois de Corudius. Étant donné que ce même mois apparaît pour une première fois, la chance est grande que ce soit encore ce même Publius Sextilius qui aurait donné de l'argent pour les fêtes de son anniversaire au moins trois fois. Ce mois de Corudius est attesté jusqu'aujourd'hui qu'une seule fois, et cela à Mytilène de Lesbos tout proche. L'autre moi ne se laisse pas, malgré les tentatives successives de Michael Wörle et de moi-même, déchiffrer dans son entier. Une chose au moins étant certaine, ce qu'il doit s'agir d'un moi, d'un nom entièrement nouveau. Faut-il en conclure à une provenance lesbienne de l'inscription à une pierre errante échouée à Pergame? Je crois que non. Certes, les pierres voyagent facilement dans la vallée du Caïque, comme l'a remarqué jadis Louis Robert, mais pas de la côte à l'intérieur, mais plutôt dans la direction inverse de la Pergame si riche en pierres vers la côte égéenne. D'autre part, l'inscription ne montre pas la moindre trace d'éolisme, à tel point que je suis, en fin de compte, enclin de l'inclure dans les inscriptions de Pergame. Et c'était encore Louis Robert qui, dans une contribution au mélange Cantoléon, attirait l'attention sur les relations étroites entre les cités de Lesbos et Pergame. Je cite, « Sous les dynastes grecs, pendant la domination perse, les Gangylides, un point qui est incontestable, fut vraisemblablement constituée l'organisation de Pergamon tribu. Or, la majorité d'entre elles qui ne reçurent pas ensuite des noms dynastiques se rattachent à Lesbos par leur nom. Si la tribu Euboïs est en rapport avec l'origine des Gangylides, c'est aux héros de Lesbos que se rattachent les noms Macaris, Pelopis, Aeolis. Des traits de l'onomastique et des inscriptions municipales évoquent les traditions éoliennes. Pourquoi pas des mois aussi? Partant de ce postulat d'une provenance pergaménienne, il nous reste deux questions ultimes, les plus importantes en fait. Quelle est donc la nature de cette communauté qui, à mon avis et d'après bien des hésitations, est une association? Ses membres sont, autant que l'on puisse juger d'après la nature fragmentaire du texte, des Romains, soit de souche, soit des affranchis. Le secrétaire, au contraire, s'avère un Grec, Sophron Artémonos, ce qui exclut, à mon avis, de penser à une communauté composée exclusivement des Romains, des Catoicountes, Romaiae, à Pergame, et on pourrait aussi penser, ils auraient alors écrit en latin, probablement. C'est pourquoi je suis enclin à penser, vu le rapport avec le gymnase, à une association dans le style des presbyteroi, mais avec au moins une prépondérance de membres romains, sans pour autant être en mesure de préciser cette impression. Pour la seconde partie du registre, au moins telle que nous est parvenue, est celle ajoutée plus tard, l'année est conservée. C'est celle pendant laquelle un Mithradates assumait l'éponymie pour la troisième fois. Mais encore, de quelle sorte d'éponymie s'agit-il et surtout qui est ce Mithradates? Même si une éponymie de l'association n'est pas à exclure totalement, je penche plutôt pour celle de la cité qui, si mon attribution à Pergame se trouvera confirmée, devrait être celle de cette cité. Reste alors la question cruciale de l'éponyme nommé Mithradates. Malgré l'existence d'une ère du roi Mithradate connue par les émissions monétaires et surtout par l'atelier de Pergame, l'époque est bel et bien révolue où un roi qui a accepté la charge de l'éponymie d'une cité soit registré en tant que simple particulier. Si, à Milet par exemple, Alexandre le Grand apparaît sous le nom d'Alexandros Philippou sur la liste des Stéphanophores. Mithridate, lui, en l'an 86-85, est nommé Basileus Mithradates. Mais ce qui pense encore plus, c'est que le registre nous montre dans une année, même pendant laquelle un Mithridates assume l'éponymie pour la troisième fois, des Romains donnant des sommes pour la célébration de leur anniversaire à Aikat en Iaoton, évoquant ainsi une atmosphère à peine imaginable en 86, sous le règne de Mithridate même, 2 ans seulement après l'horrible pogrom de l'année 88. Si l'inscription provient réellement de Pergame, comme je le suppose, elle témoigne d'une prise en charge de la magistrature la plus prestigieuse, excusez-moi, du Britannis Kai Hierois Philetairou de la cité par notre Mithridates pendant 3 années consécutives ou non, et confirme de façon éclatante la position hors du commun du personnage méprisé comme un pur démagogue par Cicéron. Par manque de temps, nous ne pouvons jeter qu'un coup d'œil sur une liste de cités écrite en 2 colonnes sur une colonne qui nous enseigne, in primis, que les Koskinietae formaient bien une cité et qui nous réserve la grande surprise de rencontrer les Maiandrioi, petite cité connue seulement par une notice vague et imprécise d'Étienne de Byzance, et les listes de tribus athéniennes du 5e siècle existaient bel et bien encore au 1er siècle avant Jésus-Christ. Quant à la question essentielle, à savoir la raison qui commandait la compilation et l'affichage de cette liste ne suivant aucun ordre discernable à Pergame, on ne peut que supposer à titre d'hypothèse qu'il pourrait s'agir de l'énumération des cités ayant choisi de participer à un événement célébré à Pergame, telle une fête avec un concours et une sumptuosité à l'image des Panathénées que nous avons rencontrés vers le début de cette série de ces conférences, nouveau témoin de la lutte intense des Pergaméniens pour retrouver la place qui était la leur à l'époque des Attalides parmi les cités de l'Asie mineure occidentale, celle de la primauté, d'une capitale, et cela sous les conditions changées d'une province romaine. Nous avons pu voir, même si c'était que d'une façon sommaire, les faits et gestes des grands hommes politiques de Pergame à l'époque tardo-républicaine. Une inscription datant de cette même époque, ou à la rigueur des débuts du Principat, inédite à ce jour elle aussi, nous permet d'apercevoir un d'eux sous un angle tout à fait différent. L'inscription en question, trouvé par hasard, et donc sans contexte archéologique, dans la ville moderne de Bergama en 1968, et introuvable au musée pendant des décennies par la suite, se présente comme une mince dalle de marbre friable d'une épaisseur de 3 cm et d'une hauteur de 90 cm seulement, son écriture minuscule ressemblant à celle de décret. La plaque avait dû faire partir d'un ensemble plus important, peut-être une sorte de petit mausolée, comme le prouvent les 4 traces de fixation, autant que les coupures de la frise composée de boucrane et une guirlande aux 2 côtés. Elle se présente comme une stèle à fronton, avec comme ornementation à la gauche de ce fronton un lion bondissant, à sa droite un crabe, son milieu orné d'une simple couronne de laurier portant l'inscription « Asia ». Au-dessous du fronton sont placées 3 couronnes supplémentaires ornées, eux, de bandelettes, dont 2 d'oliviers décernés par les autorités civiques de Pergame, Boulé et Demos, la 3e de la Gérousia, composée de céréales. Entre ces couronnes et le texte est placée la frise de guirlande et boucrane déjà mentionnée. Commençons par les 2 épigrammes en distique élégiaque. Si tu veux connaître l'homme gisant sous la terre, c'est Dion, la voix nestorienne du conseil. C'est lui que le grand Phoebos a choisi en prononçant pour lui des oracles de l'intérieur de son sanctuaire célèbre qu'il a gravé sur son tombeau. Il m'est, à ce jour, impossible d'identifier l'oracle en question. À cette époque, il pourrait s'agir soit de Claros va de celui de Didyme ou même de celui de Crunaïon, tout proche de Pergame. Ça voisine Aegae d'Éolide avec son sanctuaire d'Apollon Crestérios n'étant pas exclu non plus. À l'encontre du pluriel promis, ce n'est qu'un seul oracle qui suit. Son contenant étant qu'il y aura à l'avenir de lui, Dion, un logos, signifiant ici probablement quelque chose comme discours glorifiant, digne d'un hymne qui le rendra célèbre auprès des générations des jeunes à venir. Tout ça, à vrai dire, pourrait sembler assez banal, mais pourtant la promesse d'une divine d'une gloire posthume, modèle, semble avoir été pour l'intéressé d'une importance primordiale, comme le montre l'inscription même de l'oracle présenté avec fierté au front de sa tombe. Mais c'est la première de ces trois épigrammes qui s'avère la plus captivante et en même temps la plus difficile à comprendre. Le début déjà n'en est pas facile à construire pour et partant à interpréter, même with a little help from my friends de Cologne, plus experts en matière d'épigramme que moi. Le lapicide déjà semble avoir eu ses difficultés avec ce texte, ainsi il a dû ajouter le sigma au début de la ligne 4 après coup et corriger tout autant le colon de cette même ligne, les trois premières lettres étant inscrites sur une rasure. Voilà que je crois comprendre. Déjà de son vivant, le daimon a tendu une main grave, forte, à Dion le respectable, en lui assignant une belle place, une place éminente, au conseil, d'où où il guidait avec ses avis politiques ou plus précisément, ses propositions de Gnomae, la cité comme un navire, image si connue du gubernator rei publicae, et je dois ajouter que je dois la lecture Hopoia Naon à Gregor Stapp de Cologne. Ce texte nous fait connaître un politicien éminent de Pergame, expliquant ainsi les trois couronnes décernées par les organismes de la cité de Pergame, le conseil, le peuple et la Gerousie. Mais comme le prouve la couronne décernée par l'Asie, c'est-à-dire le koinon de la Provence, nous avons affaire à un politicien couronné de succès et de renom, pas seulement au niveau local, mais celui de la province entière. Je continue. Et au moment où il fermera les yeux, il ne glissera pas dans l'Hadès, mais quand il sera délivré de son otage orné des mains de deux enfants et léguant à ses petits-fils une maison riche, à ce moment, Solon aussi l'appellera l'homme bienheureux. C'est évident que nous avons affaire à une reprise de la fameuse nouvelle transmise par Hérodote de l'entrevue entre Solon et Crésus, le sujet de laquelle étant la question posée par le roi au sage athénien qui, à son avis, serait à désigner l'homme le plus bienheureux, dans l'attente, bien sûr, d'être nommé lui-même à cause de sa richesse inestimable. Comme l'Athénien Télos, désigné par Solon à sa place, encore devant Cléobis et Biton, Dion, d'un âge très avancé, lui aussi, était doté de fils et de petits-fils. Mais il y a aussi à constater une différence, à mon avis, significative. À l'encontre de Télos, dans Solon, le Solon hérodotien, vantait les biens modestes. À l'époque de Dion, il était devenu impensable d'imaginer un politicien éminent, membre d'élite, n'étant pas doté d'une maison opulente, d'un olbios, de homdomos, exprimé ici de façon comparable à celle de Crésus, montrant son palais et ses richesses à Solon. Et ce n'est pas dans l'Hadès que cette scène mémorable de la rencontre posthume entre le sage athénien et Dion le pergaménien a pu se passer, ce dernier, nous l'avons vu, n'étant pas glissé là-bas. Cet endroit, celui où passera l'âme de Dion, ne se laisse plus déterminer donc à partir des épigrammes. Cette fois, c'est le décryptage de la décoration du petit monument qui nous en éclaircira. À gauche du fronton, en haut du monument, se trouve placé, je l'ai déjà remarqué, un lion dans sa forme canonique du signe correspondant du zodiaque. De même que, à sa droite, celui du crabe, c'est-à-dire du cancer, ce qui, à première vue, pourrait sembler énigmatique. Voilà la solution, je dois l'avouer, trouvée qu'après bien des essais infructueuses. En fait, c'était surtout les néoplatoniciens de l'Antiquité tardive qui, dans le sillage de leur maître Platon, s'efforçaient de définir le ou les endroits précises par lesquels les âmes entraient la sphère humaine pour en sortir après leur décès en direction du cosmos. Mais c'est seulement leur prédécesseur lointain, Héraclides Ponticos, élève direct de Platon lui-même, qui, encore au IVe siècle avant Jésus-Christ, avait localisé ces portes du ciel, parmi deux autres, exactement à la limite entre les signes du zodiaque que sont le lion et le cancer. Citation d'un passage de Varron dans le commentaire de Servius au Georgica de Virgile à consulter dans la collection des fragments d'Héraclides Ponticos préparés par les soins de Verli sous le numéro 93. Cet ordre apparent qui, en invertant les places assignées aux deux signes dans le zodiaque, s'avère le même que celui que nous montrent les deux signes placés des deux côtés du fronton du monument de Dion, qui, de ce fait, gagne une signification loin au-delà du décoratif. C'est la pointe de ce fronton qui montre à l'âme de Dion le chemin vers les cieux. Notre Dion, donc, se fait connaître adhérant à la confession platonique et la dalle provenant de sa tombe érigée à Pergame devint ainsi l'exemplaire singulier documentaire de ses spéculations cosmologiques philosophico-religieuses entre le IVe siècle, sa réception chez Varron et les débuts du néoplatonisme vers la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. De plus, elle prouve pour la première fois la propagation de ces constructions de pensée en dehors de cercles restreints philosophiques dans les milieux des élites politiques des cités. Ne jetons donc plus qu'un regard furtif sur la base d'une statue probablement équestre d'un impérator et patron de la cité à qui, formulation inconnue à ce jour, les Romains avaient décerné l'hégémonie sur terre et sur mer et qui procurait ainsi au monde la paix aérienne. À mon avis, probablement Pompéius, Auguste n'étant pourtant pas définitivement exclu. L'événement le plus important pour Pergame au début de l'époque impériale était sans aucun doute l'autorisation par Octave donnée au Koenon, l'assemblée des communautés constituant la province d'Asie en 29 avant Jésus-Christ, de dédier un temple commun à la déesse Roma et à lui-même dans la cité. Avec ce temple, Pergame avait enfin atteint le but tant attendu de récupérer le premier rang, sinon de capitale, au moins du centre de culte impérial de la province. Et elle savait garder cette position exclusive pendant une bonne cinquantaine d'années jusqu'au moment où Smyrne, en 26 après Jésus-Christ, réussit d'obtenir un temple provincial elle aussi, cette fois dédié au Sénat et à l'empereur, Éphèse succédant avec un temple des Sébastoré que sous Domitien. Après Auguste, qui était honoré, comme un peu partout, par des statues à Pergame aussi, du point de vue de l'épigraphiste, qui est le mien, c'est un ensemble de statuts pour des membres du clan julio-claudien qui sautent aux yeux et dont les inscriptions, soit dit en passant, sont, contrairement à ce qu'on pourrait penser, toutes d'une facture particulièrement laide. Ainsi, Pergame, qui avait honoré Tibère déjà pendant son séjour à Rhodes, le fit à son tour pour Germanicus. Drusus le Jeune, fils adoptif de Tibère et petit-fils d'Auguste, sa fille Julia, Tiberius Claudius César, Drusi Filius, le futur empereur Claude, et enfin, un peu plus tard, sous le règne du même Claude, Nero Claudius Imperatoris Claudii Filius, petit-fils de Germanicus César, le futur empereur Néron. La collection des honneurs à la famille de Tibère et ses successeurs présumés un temps ou un autre se trouve maintenant complétée par le malheureux Nero Caesar, grâce à une inscription inédite et comme si souvent de provenance incertaine. Le texte Nerona Caesaraic Progonon Oiagetin Rotemos. Fils aîné de Germanicus, adopté par Tiberius après la mort de son père Drusus, que nous avons rencontré il y a un instant, marié en 23 à la Julia que nous avons rencontrée elle aussi il y a un moment, Quaestor en 26 et héritier plus ou moins officiel de Tibère qui, comme souvent, ne s'exprimant pas d'une façon claire et sans ambiguïté, néanmoins reprochait au Sénat des honneurs inopportunes que l'Assemblée avait jugé bon de décerner à Néron. Peu après, accusé de trahison autant que sa mère Agrippine, il fut relégué à une île où il se suicidait de faim en 31. Pas seulement les sénateurs à Rome, les pergaméniens, eux aussi, ont dû à un certain moment, peut-être autour de 25-26, être convaincus de l'importance future du jeune prince. Étant donné que cette idée n'a certainement pas pu venir des pergaméniens eux-mêmes, elle a certainement dû leur être suggérée plus ou moins directement par des autorités romaines, peut-être le proconsul en personne qui, de ce fait, tombait dans le même piège que le Sénat. On ne sait pas si cet honneur, qui devait apparaître par la suite un faux pas, entraîna des conséquences pour la cité. C'est sous Néron que le rapport avec l'empereur se gâcheront de façon définitive. La cause en était le pillage systématique des œuvres d'art ordonnées par l'empereur, action qui provoquait une résistance massive de la part de la population à Pergame. Bien sûr, la documentation épigraphique ne parle point des conséquences. C'est la fin abrupte du monnayage de la cité qui ne devrait pas recommencer que sous Domitien, qui donne un indice du châtiment que subissait la cité. En effet, c'est aussi sous cet empereur que l'épigraphie recommence peu à peu de nous éclaircir de nouveau sur les destinées de Pergame. D'après la reconstruction par Christian Habicht, le renouveau du sanctuaire d'Asclépios tombé en léthargie depuis le début de l'Empire, adopté par tous, se situait à l'époque d'Adrien et du début du règne d'Antonin. Or, les recherches de l'archéologue Volker Michael Stroka, publiées il y a peu, dans les Istanbuler Mitteilungen 212 seulement, s'efforçaient de démontrer comment la construction du théâtre du sanctuaire avait déjà été commencée pendant la fin du règne de Domitien ou au début de celui de Trajan. Mais c'est une inscription publiée par Michael Wörle en appendix à l'article de Stroka qui en fournit la preuve. Elle nous montre un couple formé par Tiberius Julius Amyntas Claudianus, inconnu lui à ce jour, et de Claudia Paulina, rejetant, elle, au contraire, d'une famille de notables pergaméniens bien connus. Les deux, anciens grands prêtres d'Asie, nouveau, subdivision de la. Et ils construisaient, ou subdivision de la KVA, des Célides, des Célides du théâtre de l'Asclépiaion, construit de leur propre fonds à partir du sol. Mais il y a peut-être plus. Une autre inscription trouvée, elle, il y a 100 ans, dans le gymnase situé sur les pentes de l'Acropole, se présente comme une base de statue érigée en l'honneur d'une Claudia Capitolina. Mariée en deuxième noce à Junius Rufus, connu comme préfet d'Égypte pendant les années 94 et 98, son premier mari n'étant autre que Gaius Iulius Antiochus Epiphanes Basileus Megas, dernier roi de Commagène. C'est de lui qu'elle doit le titre de Basilissa, reine. Capitolina était la fille d'un homme aussi fameux que mystérieux, dont on n'est même pas sûr s'il s'agit d'un ou de plusieurs personnages portant le même nom. Ce qui est sûr pourtant, au moins pour moi, c'est que son père était préfet d'Égypte, lui aussi, pendant les années 55 à 59, et ami des empereurs aussi divers que Néron et Vespasien, sinon de Claude. Des épigraphistes, ce Balbillus est connu surtout par les Balbillaia, concours pentétériques et stéphanites, uniques en son genre pendant toute l'Antiquité, concours tenu, d'après nos connaissances, surtout à Éphèse, mais aussi, comme nous le savons maintenant par les inscriptions aussi, à Smyrne autant qu'à Pergame. Surprise que les Robert étaient d'abord réticents à accepter. Il se peut que notre inscription érigée au gymnase montrant Capitolina restituant des fonds dus à Pergame en vertu du testament de son père, ce n'est pas à mettre en relation avec ces concours de Balbillaia organisés à Pergame. Mais que diantre s'était-il donc passé pendant les décennies entre les années 70, date de la mort de Balbillus, le règne de Vespasien, et les années autour ou même après son, date de l'inscription en heure de sa fille, d'après la titulature ton proton néocoron. Affaire bien mystérieuse et impossible à résoudre. Une autre inscription connue, elle, depuis sa publication dans le CIG, atteste une Capitolina ensemble avec ses enfants dans un contexte indéterminé. Et c'est, à mon avis, certainement la Basilissa Claudia Capitolina qui est mentionnée sur un bloc d'architrave se trouvant dans le jardin du musée de Pergame, de provenance inconnue encore, et qui, donc, a dû être honoré d'un monument considérable de la part, probablement, du conseil et du peuple de Pergame. Enfin, un autre bloc d'architrave, trouvé, lui, pour une fois, dans les fouilles de l'Asclépiaion, et dont je ne peux malheureusement pas vous montrer de photo ici, porte simplement l'inscription « Balbillos », qui, vu l'extrême rareté du nom, est à identifier, à mon avis, sans aucun doute, avec le père de Capitolina, un personnage construisant une partie au moins d'une stoa ou quelque chose de pareil, parce qu'un bloc d'architrave a dû appartenir à un bâtiment pas trop petit. Alors ça va être lui, à mon avis. Mais malheureusement, quand nous n'avons que ce nom sur un architrave d'un bâtiment, mais cette fois, on est sûr, au moins, que ça vient de l'Asclépiaion. Ainsi se profile, peu à peu, même si ce n'est encore que d'une façon opaque, une participation de la famille de Balbillus à l'effort du remodelage de l'Asclépiaion, et cela peut-être dès l'époque de Vespasien ou de celle de Domitien ou plus tard. Mais j'en passe et des meilleurs, comme le rôle qu'a dû jouer le pergaménien Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus, un des personnages les plus éminents de Pergame, frère à roi, entre autres, vice-consul, proconsul d'Asie et ami de Trajan, honoré par sa patrie par au moins une trentaine de statues. Alors, quand je m'imagine, tous trouvés à l'Acropole et prêts, quand je m'imagine déambulant là-haut, alors, c'est incroyable. Tout on regardait, on voyait au moins une fois Quadratus. Vraiment, c'est quand même une chose. Alors, de ces statues, et qui était certainement, d'une façon qu'on ne peut pas déterminer, d'une façon précise, impliqué au moins dans la décision de l'empereur Trajan d'attribuer à Pergame un deuxième temple provincial, dédié cette fois à Zeus Filius, Jupiter Amicalis, aux côtés de Trajan. Décision inouïe et lourde de conséquences, comme on se voyait depuis dans la première moitié du IIe siècle, mais qui accordait aux Pergaméniens, une fois de plus, et pour la dernière fois, la primauté entre les grandes villes de la province. C'est son fils et sa femme que je veux vous présenter, en particulier à John Child et à Gabriel Fricher. En effet, une inscription de l'Asclépiaion montre un Aulus Iulius Quadratus honoré en tant que prêtre, grand prêtre des temples à Pergame, à l'époque où la cité se présentait comme la première cité en possession de deux temples impériaux, c'est-à-dire vers la fin du moitié du règne d'Adrien, et que l'éditeur Christian Habicht raccordait sans le moindre doute au Quadratus bien connu. Mais l'image idyllique ainsi brossée d'un grand, d'un empire quasi à la retraite, présentée sans aucun de ses titres glorieux qui étaient les siens, honorée seulement pour avoir assumé une fonction religieuse dans sa patrie, se trouve refutée par le texte d'une autre statue de base, exhumée, elle, pendant les fouilles préparant la reconstruction partielle du sanctuaire de Trajan. Or, nous savons que la mère du vice-consul Gaius Antius Aulus Iulius Quadratus s'appelait Iulia Tique. Ce ne peut donc pas être lui qui, ensemble avec sa mère, honorait Adrien avec une statue dans l'enceinte du sanctuaire au sommet de l'acropole de Pergame, mais son fils, qui portait le même nom en abrégé de son père. Et ce doit être lui aussi que nous avons rencontré à l'Asclépiaion, honoré par la cité, sous Adrien aussi. C'est le cognomen de la mère Urbana qui pose des problèmes, étant plutôt commun dans les milieux des affranchis ou les charges peu élevées de l'armée que dans la plus haute aristocratie impériale, où, au moins à ma connaissance, il n'est attesté nulle part. Impossible donc de reconstruire les parentés de l'épouse d'Aulus Iulius Quadratus, ce qui est vraiment très, très dommage. On aurait bien aimé être marié à une fille d'un patricien, par exemple, ou d'un autre frère arval. Mais non, on a une Iulia Urbana. Tant on ne sait que faire. Passons donc aussi la lettre écrite le 22 décembre 137, par laquelle Adrien refusait carrément la requête des Pergaméniens de leur accorder un nouveau temple provincial dédié à lui, disant « Ce que vous avez, c'est suffisant ». contrecarrant de la sorte un nouveau essai de regagner la suprématie parmi les cités d'Asie, tout en leur concédant en compensation d'ériger sa statue à côté de celle de son père Trajan dans le temple du dernier. Retournons une dernière fois à l'Asclépiaïon. Pour y rencontrer les grands pâtisseurs de l'époque d'Adrien et d'Antoine le Pieux, Lucius Cuspius Rufinus et Aulus Claudius Carax. Le premier, consul ordinaire sous Antonin en 142, était le bâtisseur du nouveau temple de Zeus Asclepios, un panthéon à échelle réduite. Et c'est après lui aussi que tout le sanctuaire était nommé et connu sous le nom de Rufinion Alsos, bois sacré de Rufinus, famé comme tel jusqu'au VIe siècle, comme l'a pu montrer Denis Fessel. Consul, il était honoré par des associations de quartiers de la ville, du genre des Oikaeten Agropolin Katoikuntes et des Oikatoikuntes ten Pasparaiton Plataion. Aulus Julius Carax, lui, constructeur du propylon du sanctuaire, honorait Antonin en tant que bienfaiteur de l'univers, de la patrie et de lui-même dans l'Asclépiaïon. Une inscription honorifique à Pergame par la cité de Patras nous donne son cursus jusqu'au consulat, ce fait en 147. Ce n'était pourtant pas cette carrière qui formait le motif pour cet hommage, mais la qualité du personnage en tant qu'historien, Syngraphos. Qu'il était de surcroît respecté comme philosophe aussi, nous est connu par Marc Aurèle. Non loin de la pierre portant la liste des villes présentées vers le milieu de cette conférence même, se trouve une statue de base, sans provenance exacte bien sûr, érigée pour lui, Hypaton Romaion, consul des Romains, le bienfaiteur et fondateur de la patrie, par les soins des Katoikuntes ten Eponimon Teu Antonainu Plataean, des habitants de l'avenue portant le nom du dieu Antoninus, c'est-à-dire l'empereur Antonin.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Helmut Müller, invité par la chaire d'épigraphie et histoire des cités grecques. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémé. Rendez-vous demain pour entendre une rencontre entre Carole Beffa et Cédric Villani sur le thème de la créativité en musique et en mathématiques. Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.